Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
Canal Academy reçoit aujourd'hui, pour Au fil des pages, M. Jean Pruvot. M. Pruvot est un familier de la maison. Nous avions avec lui évoqué en juin dernier le Thomas Corneille, lexicographe, auteur du Dictionnaire des termes des arts et des sciences de 1694. Il nous avait alors annoncé un nouvel ouvrage à paraître pour 2006 aux éditions Ofris. C'est chose faite. Il vient donc nous présenter les dictionnaires français, outils d'une langue et d'une culture. Rappelons qui est notre ami Jean Pruvot, professeur à l'université de Cergy-Pontoise, où il enseigne la lexicologie et la lexicographie. Il y dirige conjointement un master sciences du langage et un laboratoire du CNRS, le Métadif, consacré aux dictionnaires et à leur histoire. Il organise chaque année la Journée des dictionnaires, rendez-vous international des lexicologues et lexicographes. Il est l'auteur de plus de 280 publications, la liste a dû s'allonger d'ailleurs,
oui, c'est vrai.
Dont deux que sais-je, les dictionnaires de langue française et les néologismes. Il a obtenu en 2000 le prix international de linguistique Logos, avec, paru au PUF, Dictionnaires et nouvelles technologies, qui est toujours d'actualité, comme nous le verrons tout à l'heure. Cher Jean Pruvot, bonjour.
Bonjour Anne-Françoise.
Les dictionnaires, c'est un sujet, vous le savez bien, que nous affectionnons tout spécialement ici, à l'Institut. Avant de voir ce qu'ils deviennent et comment ils se transforment, nous allons rappeler, si vous le voulez bien, quelle a été leur histoire au cours du siècle qui vient de s'achever. En 2005, se fêtait, dites-vous au chapitre 4 de votre livre, le centenaire du petit Larousse illustré. Parlez-nous de ces grands dictionnaires, les Larousse, de leur conquête éditoriale qui n'a guère laissé de place aux autres, semble-t-il.
Oui, c'est tout au long de cette première moitié du XXe siècle, donc le siècle dernier maintenant, une sorte de mainmise au bon sens du terme des lexicographes Larousse, pas de Larousse puisqu'il est décédé en 1875, sur, disons, non seulement le marché, mais peut-être les habitudes françaises qui se prennent à ce moment-là en matière de consultation des dictionnaires. Alors, il faut rappeler qu'à la fin du XIXe, il y avait deux personnages incontournables et extraordinaires, c'est Pierre Larousse et Émile Littré, qui avait fait paraître presque en même temps l'un un dictionnaire de langue, Littré, et l'autre un dictionnaire encyclopédique, Pierre Larousse.
C'est vrai, mais on dit « j'ai chez moi un Larousse », on ne dit pas « j'ai chez moi un Littré ». Le Larousse est devenu
voilà.
Vraiment...
Le talent de Larousse avait été de savoir monter en même temps une grande maison d'édition. Et cette grande maison d'édition va, par des réseaux familiaux, puisque la famille de Larousse, plus exactement les neveux de son associé Boyer, et puis la petite nièce de Madame Larousse qui va épouser Claude Auger, Claude Auger sera l'auteur du premier grand dictionnaire du XXe siècle, Larousse, et il était aussi instituteur d'ailleurs, Paul Auger, il venait du Gers, et son titre était le nouveau Larousse illustré, en 6 volumes plus un supplément, et par le titre même, on comprend la révolution qui s'installe, c'est-à-dire des illustrations très fines, très intéressantes, avec les costumes, avec notamment les champignons, les oiseaux. Et tout cela va introduire une belle révolution. C'est d'ailleurs à ce dictionnaire que pense Sartre lorsqu'il évoque les dictionnaires qui, dans les rayons de la bibliothèque de son grand-père, voilà, dans
son œuvre autobiographique,
font résonner chez lui des souvenirs très forts, où il dit même que les singes et les oiseaux dans ce dictionnaire lui paraissaient plus vrais que ceux qu'il voyait au Jardin des Plantes.
Alors ça, c'est début du siècle.
C'est début du siècle.
1898-1904.
Voilà, et c'est là où je disais tout à l'heure que Larousse a su prendre en quelque sorte tous les marchés et tous les besoins, parce qu'en même temps qu'il y a ce grand dictionnaire, il y a le petit dictionnaire, le petit Larousse illustré, sous la direction aussi de Claude Auger, qui s'inscrit dans la continuation du tout premier dictionnaire de Pierre Larousse de 1856, qui était le nouveau dictionnaire de la langue française. Et ce petit Larousse illustré, qui prend un peu de volume par rapport au petit dictionnaire de Larousse...
Même taille aujourd'hui ?
Oui, à peu de choses près. Il a encore grossi. Hein. Il a bien pris encore 10 à 15% d'embonpoint et bien 200 ou 300 pages supplémentaires. Mais c'est un bon embonpoint. Et surtout, il a un succès immédiat avec 200 000 exemplaires qui sont achetés dès la première année. Et il s'en vendra, bon an, mal an, 500 000 exemplaires pour arriver, vous l'avez rappelé, jusqu'à 1 million d'exemplaires au moment du passage au 21e siècle. Donc c'est énorme. Et alors ce dictionnaire est merveilleux parce que il est abondant en exemples. Les exemples sont là pour à la fois nourrir les élèves sur le plan encyclopédique et historique et en même temps en langue française. Et je donne l'exemple de Buffon, ne travaillait qu'en manchette. C'est l'exemple qui est donné pour manchette et qui est assez intéressant parce que dans le fond, bon, c'est anecdotique, ça rappelle l'existence de Buffon, mais en même temps, en manchette, on a la langue française qui est quand même honorée. Alors, ça se poursuit. 1907, Larousse mensuel illustré. Alors là, c'est une œuvre magnifique puisque...
Qui a duré longtemps.
50 ans.
Jusqu'en 1957.
C'est ça. 1957. Et c'est assez extraordinaire. Bon, j'ai la chance de les avoir au bout de quelques années de brocante tous. Mais c'est une étude magnifique qui peut être faite, par exemple, sur les ouvrages qui paraissent. Puisque systématiquement sont résumés les ouvrages qui paraissent. Les discours des académiciens, puisque ce Larousse mensuel illustré, c'est une trentaine de pages de A à Z qui paraissent chaque mois, et donc souvent A, c'est Académie, et c'est souvent le discours d'un académicien ou quelque chose se référant à l'Académie. Donc
et
l'Académie
ça avait quelle forme
représenté. Alors ça avait exactement le format des in quarto Larousse, hein, donc assez imposant, comme aujourd'hui les Larousse en 10 volumes, et alors ils avaient cette forme-là, parce que au bout de 3 ans, on les reliait, et ça donnait à ce moment-là un volume supplémentaire. Ce qui fait d'ailleurs que j'avais eu la surprise de lire dans des publicités que j'avais dénichées sur Larousse, le Larousse en 12 volumes. Et je me disais, mais Larousse en 12 volumes, ça n'a jamais existé. Il est en 10 ou en 7. Je comprends pas très bien ces 12. Mais en fait, c'est 7 volumes, ceux de 1898-1907. Et on rajoutait, par exemple, les volumes qui continuaient 5 années correspondant à ce Larousse mensuel illustré. Et c'est ainsi qu'il était mis à jour en permanence. Alors, il y en a d'autres, évidemment. Il y a le premier, Larousse pour tous. Il y a le grand en 7 volumes. Il y a le Larousse mensuel illustré pour chaque mois. Et puis, il y a celui en 2 volumes. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place ou qui n'ont pas assez d'argent pour s'offrir, il en fallait pour toutes les bourses. Et ce Larousse en 2 volumes, qui date de 1907. En 1922, ce Larousse pour tous s'appellera le Larousse universel. On se souvient du Larousse en 3 volumes, qui...
En couleur.
Voilà. Et c'était, vous êtes très savante, hein, parce qu'effectivement, c'est le premier qui pouvait annoncer qu'il était entièrement en couleur.
Et couleur avec un S.
Et oui, voilà. Et alors, dans le fond, le Larousse en 5 volumes en est un peu le fruit, et le grand Larousse illustré qui vient de paraître, mais on en reparlera tout à l'heure en 2005, en est aussi une sorte d'héritier. Et puis alors, les petits pour les classes. Et on ne croit pas si bien dire, parce qu'en 1910, c'est le Larousse classique illustré. Et classique, on l'a souvent mal compris, quand il s'agit de dictionnaire, c'est le Larousse qu'on étudie dans les classes. Et les petits classiques, c'est ce qu'on étudiait dans les classes, dans le fond. Alors, on a eu tendance à l'assimiler au XVIIe et à la grande époque classique, mais c'est ce sens-là qu'il faut lui donner.
Oui.
Et inversement, le Larousse élémentaire, qui paraîtra en 1914, a souvent été assimilé à l'école élémentaire. Mmh. Or, en fait, c'est par la suite qu'il est effectivement devenu le Larousse de l'école élémentaire, mais c'était surtout un petit Larousse, les éléments, le Larousse élémentaire, et donc qui, en 1914, est dirigé par Claude Auger et son fils, Paul Auger.
Paul Auger.
Et puis, il y a le Larousse de poche, en 1911. Mon grand-père en avait un, donc c'est très émouvant de le consulter. Et puis, en 1922, je donne cette date parce qu'elle est significative, c'est le Larousse agricole illustré. Alors, j'ai pris cette date-là parce que ce Larousse agricole illustré est sans doute significatif, symbolique, plus exactement, d'un type de dictionnaire spécialisé. et qui plaît à un public donné ou aux gens qui s'intéressent au domaine. Alors,
plaît, et public qui en a besoin.
Oui, bien sûr, et qui fait le point, donc il est remis à jour régulièrement. Il y a le Larousse ménager, illustré en 1926.
Larousse gastronomique.
Voilà.
Et même le Larousse du chocolat 2005.
Oui, Larousse du chocolat 2005, qui est éprouvant quand on cherche à faire un régime, il ne faut surtout pas en feuilleter les pages, parce que c'est une provocation permanente. Et donc, on peut imaginer qu'il y en aura d'autres. Hein. C'est une longue lignée. Alors, de nouveau un grand dictionnaire. Tous les 30 ou 40 ans, il faut faire le point dans un grand dictionnaire. Et 1928-1933, c'est le Larousse du XXe siècle en 6 volumes, qui paraît entre les deux guerres mondiales, qui est intéressant parce qu'on y trouve des renseignements qui ne sont pas donnés avant et qui ne sont plus donnés après. Donc, c'est en ce sens, notamment des renseignements bibliographiques et biographiques.
Reflet d'une époque.
Voilà. Et puis, 1936, un tout petit dictionnaire de forme à une 18, c'est symbolique aussi.
C'est, 36.
Voilà. Et aussi, en 1949, et pour moi c'est une date importante, c'est le premier tout petit Larousse pour enfants. Le Larousse des débutants par Miguel de Toro, qui avait fait le Pequeño Larousse Ilustrado en 1912, qui est bilingue, et qui donc offre aux enfants vraiment un dictionnaire dont les définitions sont non plus des réductions des définitions des adultes, mais vraiment faites pour les enfants. Et ça, c'est une grande nouveauté. Alors, on est en 1950. Dans le fond, la maison Larousse a couvert tous les marchés. Tout le monde, déjà, commence à avoir un Larousse. Il n'y a presque plus de foyer qui n'a plus de Larousse. Et au point, d'ailleurs, que la maison peut fièrement, dans les années 1960, dire... On ne dit plus un dictionnaire, on dit un Larousse.
Comme on dit une poubelle.
Voilà, exactement. C'est comme un nom propre qui est récupéré. Mais il y en a quand même un autre. C'est Quillet.
Le Quillet.
Alors Quillet, c'est un personnage attachant parce que Aristide Quillet, qui est de la région parisienne, Ville-Adam, était destiné à travailler dans une carrière de pierre. Mais la chance a voulu, ou la malchance, mais enfin je pense que pour nous c'est une chance, qu'il ait quelques problèmes respiratoires et que donc la poussière des carrières de pierre ne lui convenait pas. Donc il ne fera pas la carrière, si on peut dire, de son père, mais... se retrouvera avec son certificat d'études dans un secrétariat. Il a de l'ambition, il a des compétences, et le voilà, auteur, éditeur de dictionnaires. Alors, plutôt éditeur, et il va publier en 1934 les 6 volumes du dictionnaire encyclopédique Quillet. Et en 1946, ça c'est une date importante, parce que vous voyez bien que j'ai parlé de Larousse, mais on a surtout parlé de dictionnaires de type encyclopédique, dans le fond, même si la langue est bien représentée. Mais en 1946, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sont publiés les 3 volumes du dictionnaire Quillet de la langue française. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est le premier dictionnaire français-français, enfin, de langue, avec des citations, des exemples forgés, qui est illustré. On mettra un certain temps, quand on y réfléchit, le petit Robert n'a pas encore franchi le pas. Et pourtant, pour quelques mots, notamment ceux de la charpente, parfois ça s'imposerait. Et les illustrations n'avaient rien d'esthétique. Elles étaient fonctionnelles, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire on donnait les différents types de chaussures, on en montrait les détails, etc.
Nécessaire.
Voilà un peu donc cette première moitié du XXe siècle, avec un bilan impressionnant, dans le fond, grande démocratisation des dictionnaires, c'est certain. Ensuite, tout le monde est habitué à bénéficier d'un dictionnaire millésimé. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. On attend son dictionnaire chaque année. Les journalistes commencent à regarder de près. Le seul, d'ailleurs, c'est le petit Larousse, le Quillet peine encore à paraître en un seul volume. Et puis, un constat. J'ai évoqué tout à l'heure Littré. Littré est un peu le grand perdant.
Alors, sa fille qui refusait...
Voilà, qui refusait, alors grand perdant ou grand gagnant du coup, grâce ou à cause de sa fille.
Que les archives ne soient...
À cause de sa fille, elle considérait que l'œuvre de son père ne devait pas être touchée. Donc c'était un monument et une sorte de mausolée. Et la maison Hachette n'a pas pu toucher au grand dictionnaire Littré.
Donc on ne pouvait pas le mettre à jour.
On ne pouvait pas le mettre à jour. Alors on peut donc le vendre 5, 6, 7, 8, 10 ans, mais si on sait... Par ailleurs, que le Littré avait surtout pour objectif de d'écrire la langue du 17e, 18e et 19e, mais pas plus loin que 1830, ça en faisait quand même un dictionnaire qui commençait à vieillir. Mais en même temps, comme il est difficile à trouver et qu'on ne le trouve que sur les quais, tout près de l'Institut, il y a dû y avoir des académiciens qui se sont précipités pour essayer de l'acheter, avec le supplément, il fallait trouver le supplément, il prenait une valeur.
C'était quand même
un dictionnaire avec 250 000 citations. Et il n'y avait pas de dictionnaire de langue française. Et le Quillet, avec ses trois volumes en 1950, je me souviens plus très bien, je l'ai dit, en 1946, eh bien le Quillet faisait pas le figure hein, ça, par rapport au littéraire. Il manquait donc un grand dictionnaire de langue.
Oui. Et alors, vous dites également que la lexicographie institutionnelle est pratiquement absente.
Alors, la lexicographie institutionnelle, il y a eu vraiment de grandes éditions du dictionnaire de l'Académie. On aura l'occasion d'en reparler. C'est vraiment notre fil conducteur en permanence.
La 8e édition.
Il faut bien avouer que si la 6e était excellente, la 7e, peut-être parce que je m'en suis occupé plus précisément dans une étude avec Bernard Kemada, je la trouve aussi très bonne. Elle est parfois dénigrée, mais je la trouve très intéressante. La 8e n'est peut-être pas la plus intéressante.
1932-1935.
Voilà. Mais ce qu'on ne sait pas...
Peu novatrice, dites-vous.
Peu novatrice. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est Gabriel Kemada qui l'a mise en relief, avec des discussions avec Maurice Druon, et puis beaucoup de personnes dans du côté des archivistes, c'est qu'il y avait eu le projet d'un petit dictionnaire de l'Académie.
Ah oui.
Et donc comme un petit Larousse. Et ça, indirectement, c'était montré la réussite des dictionnaires en un volume. Hein, le petit Larousse devenait effectivement synonyme de dictionnaire. C'était donc une belle initiative. Bon, elle n'a pas eu le lendemain. Donc, on n'a pas vraiment de dictionnaire de langue dans la première moitié du XIXe siècle. Il y avait bien eu le Hatzfeld et Darmstädter en 1900, mais il était moins important que le Littré, de volume. Il était clair, logique, mais il manquait quelque chose.
Oui, un renouveau était nécessaire.
Absolument.
Il a eu pour amis et modèles Pablo Picasso et Jean Cocteau. Il s'est passionné pour la corrida, les nus, les gitans et les étangs. Il est le premier photographe à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Lucien Clergue est venu dans notre studio pour retracer son parcours dans une émission en habit vert. Cette émission est disponible sur Canal Académie par le moteur de recherche en tapant Clergue ou en passant par la liste des académiciens.
Ensuite, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'ouvre une période particulièrement prospère. Il était temps. Un demi-siècle d'or, dites-vous, qui va de 1950 à 1994. Trois grands dictionnaires de langue. Mmh. Les voilà. Le Robert, le Grand Larousse et le TLF. Quelle richesse! Vous allez nous les présenter.
Alors, j'aime bien entendre cette expression « demi-siècle d'or » parce que c'est une expression que j'ai lancée il y a quelques années. Et maintenant, je la retrouve ça et là, j'ai l'impression qu'elle s'est installée.
Elle a du succès.
Elle a du succès et je crois vraiment que c'est cela. 1950, pourquoi ? Parce qu'en 1950 paraît le premier fascicule du dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, de Paul Robert. 1994, pourquoi ? Parce que double événement, et j'avais la chance d'être sous la coupole invité à ce moment-là, c'était à la fois le tricentenaire de la publication de la première édition du dictionnaire de l'Académie française, et en même temps venait de paraître le premier volume, et en même temps c'était le dernier volume du Trésor de la langue française. Et donc, entre ces deux dates, 1950 et 1994, on a vraiment une richesse extraordinaire dont on a à peine conscience, qui correspond en partie aux 30 Glorieuses d'ailleurs. Hein. Je crois que là aussi, l'économie est toujours très proche des dictionnaires. On sait que quand l'économie n'est pas florissante, il y a légion de petits dictionnaires. Quand l'économie est florissante, il y a légion de grands projets. Mmh. Hein. Alors là, il y aura légion de grands projets et de petits dictionnaires révolutionnaires. Alors, les grands dictionnaires, ben, des grands hommes. Paul Robert.
Oui.
Paul Robert, qui nous vient d'Algérie, il était pied noir, fait des études de droit. Rien ne préfigure apparemment sa vocation de lexicographe. Cependant, avant la guerre et en faisant des études de droit, il est responsable de l'Assemblée Générale des étudiants et il a le sens de l'entreprise. Ça, c'est important. Il acquiert une expérience en réussissant à construire, à faire construire, à trouver les fonds pour une maison des étudiants, ce que d'autres n'avaient... Alors, donc à Alger.
Alger.
Puisqu'il est étudiant en droit à Alger. Mmh. Autre élément important... C'est le fait qu'il aime beaucoup l'anglais. Il reçoit des leçons d'anglais et il a accompagné son père aux États-Unis pour traduire donc en français ce que les Américains expliquaient concernant l'irrigation, parce que son père était à la fois maire d'Oran et en même temps gros propriétaire agricole pour des champs d'agrumes. Et autre expérience, eh bien, elle vient juste après son doctorat, l'envie son doctorat qu'il passe au lendemain de la guerre, sur un thème très curieux. J'ai la chance d'avoir sa thèse trouvée en brocante. Bon, il y a 3 lignes seulement sur, comme définition lexicographique, sur les agrumes. Tout le reste est de l'économie et du droit. C'était une thèse sur l'économie des agrumes dans le monde. Et évidemment, vous avez compris, aujourd'hui, ça serait sans doute du côté d'un professeur d'économie, mais dans les années 1950, ça n'a pas de débouché, c'est ni vraiment du droit, l'économie n'a pas encore une grande vocation universitaire, et du coup, on lui fait comprendre qu'il n'aura pas de poste. Et bon, la famille a de l'argent, il a une petite librairie sur Paris, et il se passionne, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé au service du code, avec les Américains, qu'il a beaucoup parlé l'anglais, et qu'il a fait un dictionnaire du chiffre, c'est-à-dire un dictionnaire de décodage, il a le goût, au lendemain de la guerre et de son doctorat, de rassembler par plaisir, comme on le fait quand on voyage à l'étranger, des mots par thème.
Et voilà, à ce moment-là, la vocation est née.
La vocation est née parce que c'est, dans le fond, un dictionnaire analogique. Mm-mm. Il rassemble les mots par analogie en anglais. Et puis de là, lui vient l'idée de le faire en français. Le Larousse du XXe siècle, dont on a parlé tout à l'heure, lui sert de base. Et le voilà s'embarquant dans une entreprise extraordinaire. Il va y convier quelques amis. Et puis, il aura des liens tout à fait chaleureux avec l'académie, puisqu'il présente à quelques académiciens son travail, notamment du Hamel, et trouve extraordinaire que quelqu'un enfin s'occupe d'un dictionnaire de langue française.
Il obtient le prix Saint-Ours.
Et il obtient le prix Saint-Ours.
De l'Académie française en 1950.
Voilà, et pour lui c'est un véritable démarrage, un véritable début plus précisément, parce qu'il comprend qu'étant reconnu par l'Académie, il va pouvoir se lancer dans cette opération avec tout de même un peu de prestige. Il a le sens de l'entreprise comme il l'avait eu quand il avait construit la maison des étudiants. Et du coup, il récupère auprès de l'Indochine, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, des fonds, auprès de tous les colons, dans le fond, de tous les pieds noirs. Et il organise un concours par le biais du Figaro et du Monde qui se présente à ce concours, Alain Rey et Josette de Boves, qui deviendra l'épouse d'Alain Rey quelques années plus tard, qui sont donc les meilleurs de ces lexicographes, et on le comprend, qui ont pris la suite lorsqu'il est décédé en 1981. Mais toujours est-il qu'il avait lancé le premier volume, donc c'est vraiment son œuvre.
Et en 1952, la lettre A était rédigée.
Voilà, et à ce moment-là, tout le monde a compris qu'il arriverait à terme, ce dictionnaire, et que ce serait un grand dictionnaire, au point alors que les universitaires sont de deux natures. Tantôt, on a une tendance jalouse, on se dit comment le privé réussit à faire ce qu'on n'arrive pas à faire. Tantôt, au contraire, on se dit, mais après tout, si des gens du privé, si des gens venus d'un doctorat sur les agrumes font un dictionnaire, il faut s'en rapprocher et les faire venir à nous. C'est le réflexe qu'a eu Paul Imps, qui avait l'idée du trésor de la langue française. C'est le réflexe qu'a aussi Bernard Quémada, qui est déjà un pionnier de tout ce qui est informatisé.
Que nous allons retrouver tout à l'heure.
Voilà.
Alors, en 64, un grand dictionnaire.
Alors, c'est donc le grand Robert, c'est le dictionnaire alphabétique et analogique. Oui. Puis en 1967, comme toujours, enfin presque toujours, derrière le grand dictionnaire, le petit Robert.
Oui, mais qui lui est publié en 67.
Voilà. Mais de l'autre côté, deux aventures parallèles se poursuivent.
Oui.
La première, c'est celle du grand Larousse de la langue française. Oui. Alors, tout le monde l'a oublié, parce qu'il n'a pas eu de succès. Il n'a pas été convaincant pour le public qui était habitué, le public de Larousse qui était habitué à avoir un dictionnaire encyclopédique. Oui. Et sans doute que la publicité de l'époque, pour un public qui a toujours été très armé de bon sens, le public de Larousse, et lorsque la publicité annonçait à grand renfort la linguistique, des développements linguistiques, etc., ça a fait peur. Le jargon peut-être faisait peur. Oui. Or, en fait, il y avait simplement des développements sur une centaine de thèmes pour argot, etc., qui servent encore aux professeurs aujourd'hui. Et le dictionnaire était de grande qualité, mais il n'a pas eu de succès. Et puis, la maison Robert se défendait, et donc a fait une contre-publicité très forte.
Ouais.
Et donc, ce dictionnaire, excellent dictionnaire, est à acheter chez les bouquinistes. Mais il n'existe plus, et Larousse n'a plus décidé de se lancer dans l'opération.
Alors, on arrive au TLF.
Alors, le magistral trésor de la langue française, c'est 23 000 pages. Ce sont 23 000 pages, 100 000 mots traités, 430 000 citations, 16 volumes parus de 1971
à 1994. L'autre date charnière.
Voilà. Et là, 7 volumes ont été dirigé par Paul Imms, et neuf volumes par Bernard Camada. Alors là, on est à la frontière d'une nouvelle époque, parce que si tout à l'heure le Grand Larousse de la langue française ou le Grand Larousse encyclopédique qui avait existé en parallèle aussi, avait bénéficié des cartes perforées, là, c'est vraiment le projet du CNRS, c'est un dictionnaire institutionnel comme l'Académie, et on conçoit ce dictionnaire en fonction de 3000 textes, c'est-à-dire des œuvres qui sont enregistrées sur support, alors à l'époque mécanographique, c'est-à-dire des bandes perforées, puis des bandes magnétiques, on a fait la translation, puis évidemment après les supports quasiment électroniques d'aujourd'hui. L'idée, c'est que lorsqu'on veut définir un mot, je prends par exemple ce que j'ai sous le nez, micro, je ne pars pas en allant chercher ça et là des textes littéraires, ou mes souvenirs, ou en recopiant les autres, ou comme fait l'Académie, c'est-à-dire en interrogeant l'élite, en interrogeant en quelque sorte une sorte d'éclectisme qui permet de trouver la belle définition et bonne définition, qui n'a pas volonté d'être une définition savante, mais précise et comprise de tous. Non, là, l'objectif est très scientifique, peut faire peur aussi d'une certaine manière, mais on tape micro sur le clavier et on demande à la machine de sortir tous les contextes dans les 3000 textes qui sont enregistrés par la machine où l'on va trouver le mot micro. Ouais. Et alors là, c'est pour ça qu'on a 430 000 citations, parce que il y a toute l'œuvre de Zola, toute l'œuvre de Flaubert, toute l'œuvre de Victor Hugo, mais aussi des textes techniques, mais aussi des documentations techniques. Et alors le lexicographe muni de, par exemple, je n'en sais rien, 1000 ou 1500 fiches avec des usages du mot micro, essaie de bâtir un article. Alors ça devient très savant, il y a aussi toute une recherche étymologique, historique, c'est la grande œuvre du XXe siècle, avec quand même une centaine de personnes qui y travaillent, et bien entendu un certain nombre d'années, mais surtout des grands patrons. Paul Imms, d'abord, un grand romaniste, et quand on y réfléchit, Paul Imms, qui parle l'alsacien, qui parle l'allemand, qui est évidemment romaniste.
Alors, Paul Imms, I-M-B-S.
Oui, c'est ça, oui. C'est pas très facile à prononcer. D'ailleurs, difficile de dire. Souvent, je rêve de dire le Imms et Camada, mais c'est pas très facile. Mm-hmm. Et Bernard Camada, de son côté, est devenu un grand linguiste. Mais alors, n'oublions pas qu'il était aussi bilingue de naissance, puisque la maman est française, le papa est espagnol, et il va regarder la nationalité espagnole pendant ses premières années. Et donc, on a là vraiment des dictionnaires de grands, grands romanistes. Et une très belle aventure, c'est sans doute, à côté du dictionnaire de l'Académie, la plus grande aventure
institutionnelle.
Institutionnelle, bien entendu.
Alors, l'impulsion a été donnée par le général de Gaulle en 59.
Oui.
Lorsqu'il voulait donner un nouveau souffle au CNRS. Alors, parlez-nous de ce gamma 60 bulles.
Alors, c'est... comment dire, une acquisition.
Le plus gros ordinateur du monde.
Mon professeur et maître, Bernard Camada, est très fier. Parce que très tôt, lorsqu'il avait une trentaine d'années, il est maître de conférence à Besançon. Mmh. On est tout près, bien entendu, de l'Italie. J'ai déjà souligné, ça et là, combien entre la Bible et le dictionnaire, les recherches religieuses et le dictionnaire, il y avait des convergences. Et la convergence, c'est notamment le fait que c'est un livre de consultation dans lequel on doit pouvoir trouver très vite des paraboles, très vite un passage, et le dictionnaire très vite, l'ordre alphabétique aidant, tel ou tel article. Et du coup, tout ce qui est novateur pousse les hommes d'église et femmes d'église, comme les hommes et femmes de dictionnaire, à s'intéresser à ce qui peut permettre de toujours mieux classer les mots, les informations. Alors, il se trouve que de l'autre côté de l'Italie, des Alpes, pardon, en Italie, près de Milan, il y a le révérend père Busa. Busa, B-U-S-A,
Busa.
Qui bénéficie des faveurs d'Olivetti à l'époque, puis d'IBM, parce que le révérend père Busa a formulé un rêve très concret, dans le fond. qu'il essaie de concrétiser, c'est d'avoir les meilleures traductions possibles de la Bible et dans les différentes langues, ce qui est toujours un enjeu délicat. Et pour ce faire, il a besoin de machines qui comparent. Alors, les premières machines mécanigraphiques, les cartes perforées qui permettaient de faire des factures de gaz et d'électricité, il a compris qu'on pouvait s'en servir aussi pour classer les mots, les sens. Et Bernard Quémada était exactement dans la même perspective. Et quand il va lancer les cahiers lexicologie, il fait venir le révérend Père Buzat dans un colloque, ils échangent, et j'avais lu ces actes avec un bonheur fou, parce que on est en 1959, et le révérend Père Buzat dit proprement, l'avenir n'est plus aux dictionnaires et aux ouvrages de papier, bon, il se trompait quand même, mais bientôt nous aurons le livre électronique. C'est le premier à parler de livre électronique. On est en 1960, on vient tout juste de parler, on passe des cartes perforées aux premières machines informatiques. Et Bernard Quémada était un pionnier dans le domaine, et c'est vrai qu'on lui doit, en gros, toute cette dynamique informatisée de nos dictionnaires. Alors, pour le moment, ce n'est pas des dictionnaires sur support informatique. On se sert de textes mis sur support informatique, mécanographique d'abord, les cartes perforées, informatique ensuite, pour récupérer le plus grand nombre d'informations.
L'informatique est en amont.
Elle est en amont. Et le dictionnaire a deux papiers.
Voilà, mais Bernard Quémada a été un des premiers à pressentir que ce débouché était déjà presque démodé et qu'on allait en fait déboucher sur dictionnaire.
Oui, ça aussi, c'est assez étonnant.
Informatisé.
Oui, Bernard Quémada, et Paul Imms est très honnête dans la préface. Paul Imms insistait pour avoir un dictionnaire sur papier et offert à tout le monde. Et Bernard Quémada avait plutôt une autre perspective, mais il était plus jeune, il représentait quand même la nouvelle génération par rapport à Paul Imms. Et sa perspective était que ce soit un ouvrage de recherche qui pouvait très bien rester sur des supports mécanographiques et électronique. Et donc, le dictionnaire papier ne lui semblait pas s'imposer.
Indispensable.
Alors, là, peut-être s'est-il trompé, c'est un grand mot, mais aujourd'hui, le TLF, comme l'Académie, on y reviendra. Mais est sur papier et sur support électronique.
Voilà, parallèlement. Alors, en à peine 30 ans, de 1964 à 1994, les Français vont disposer de 6 grands dictionnaires. Nous avons parlé du Robert, du Grand Larousse et du TLF. Quels sont les 3 autres ? En quoi étaient-ils novateurs et complémentaires ? Nous parlions de richesse, mais les Français en ont-ils été conscients ?
Alors, ils en sont bénéficiaires. Conscients, sans doute pas, parce que c'est en allant à l'étranger qu'on découvre qu'on a quand même beaucoup de fromage. Et je dirais que c'est en consultant les dictionnaires monolingues des autres pays qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de dictionnaires monolingues. Et c'est vrai qu'on est bénéficiaire d'une très grande richesse, puisque on a, au-delà du Grand Robert, au-delà, parce qu'on va l'appeler très vite Grand Robert,
oui,
au-delà du Grand Larousse de la langue française.
Celui qui n'a pas eu beaucoup de succès.
Voilà, et du Trésor de la langue française, bon, promu en principe à un certain avenir.
Oui.
Il y a le dictionnaire encyclopédique Quillet, en 8 volumes.
Oui.
Le grand dictionnaire encyclopédique Larousse, dont les 10 volumes sont publiés de 1960 à 1964 par 2 personnes qui comptent, c'est Jean Dubois et Claude Dubois. Mm-hmm. Jean Dubois était un grand linguiste, bon, à qui on doit énormément d'ouvrages et de grandes avancées dans le structuralisme. Et Claude Dubois, qui avait connu Roland Barthes, son frère, et qui n'avait pas pu passer. Il l'avait connu parce qu'ils étaient tous les deux atteints de la tuberculose. Et s'étaient retrouvés en sanatorium en même temps. Et Claude Dubois n'avait pas pu passer d'agrégation d'histoire à laquelle il se destinait, puisque tuberculeux, à l'époque, c'était impossible. Et du coup, il avait fait une carrière dans les dictionnaires, et notamment, il avait dirigé le Petit Larousse. C'était un très grand capitaine de dictionnaire. Et donc, il a piloté ce dictionnaire de 1960 à 64 de façon merveilleuse. Il y a 10 volumes, et il ne paie pas de mine, parce qu'aujourd'hui, ils paraissent vieillots, parce que les illustrations sont en noir et blanc, il y en a très peu en couleur, mais il n'a pas en même temps la facture d'un dictionnaire du 19e avec reliure plein cuir, et pourtant, il est très novateur. Et c'était un dictionnaire qui avait renouvelé complètement les grands dictionnaires Larousse, parce qu'on était parti non plus de l'ordre alphabétique, mais de 13 domaines qu'on avait circonscrit, qu'on avait confié à des spécialistes. Il y avait 750 spécialistes qui y avaient travaillé, et des secrétaires qui venaient dans ces différents départements, les 13 départements que j'évoquais, pour harmoniser le tout, et ensuite le remettre dans l'ordre alphabétique. Donc c'était très intelligemment fait, et on a vraiment un dictionnaire d'une très grande qualité, notamment, et ça intéresserait beaucoup Monsieur le chancelier de Broglie, pour tout ce qui est vocabulaire technique. Mm-hmm. Tout ce qui concerne la terminologie est très très bien fait. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les grands dictionnaires Larousse vivent encore sur cette source. Enfin, évidemment, l'ont amélioré considérablement. Mm. Alors voilà, les grands dictionnaires qui donc inondent notre marché.
Et complémentaires, dans la mesure où les dictionnaires d'entreprise privée et les dictionnaires de l'institution...
Ben voilà, alors bien sûr, il y a aussi le dictionnaire de l'Académie française qui compte, et qui commence à être publié par fascicule. Hein, on n'a pas encore le premier volume. En 1994, ça y est, le premier volume est paru. Et là, grande surprise, on sent tout de suite qu'il est d'une autre dimension que le précédent. Et qu'il
là,
fera date.
C'est le 9e.
C'est la 9e édition.
C'est ça.
Et on sent déjà qu'il fera date. D'abord, il y a beaucoup plus de mots. Il reste toujours prudent vis-à-vis des néologismes, c'est tout à fait naturel. Mais il y a une petite partie historique. Et alors, pour faire des chroniques de langue à l'Est républicain, chaque semaine, je dois essayer de raconter l'histoire d'un mot. Et de plus en plus, je consulte le dictionnaire de l'Académie et j'en parle, parce que c'est là où, dans le fond, en une vingtaine de lignes ou une trentaine de lignes, de la manière la plus concise qui soit, est racontée, la définition du mot, et est racontée aussi l'histoire du mot, très clairement. Et c'est vraiment un dictionnaire très, très sain, très clair. Alors, tous ces dictionnaires sont complémentaires.
Oui.
On sent bien que pour un chercheur sur tel ou tel sujet, ou pour un étudiant, on a envie de les consulter tous.
Alors, disons quelques mots des petits dictionnaires révolutionnaires.
Oui.
Le DFC. Mais très cher, parce que j'ai fait ma thèse sur le DFC.
Ah, je me disais que vous aviez l'esprit très clair aussi. Parce que le DFC est un ouvrage qui a constitué une véritable révolution. Ça veut dire dictionnaire du français contemporain. Et on comprend derrière l'idée du moment, on est en plein structuralisme, et au moment du structuralisme, comme vous le savez, on rejette l'histoire. Donc, dictionnaire du français contemporain, c'est-à-dire de l'époque, pour employer un mot un peu barbare, en synchronie. Et alors, il se trouve que Jean Dubois, qui en est le directeur et l'auteur, Méchonique aussi y a participé, c'est lui qui a fait la lettre G d'ailleurs, eh bien, ont pour projet de décrire les mots de la manière distributionnaliste. Alors c'est un mot un peu savant, mais si on veut mieux comprendre, c'est simplement en fonction de leur distribution dans la langue. Et si je prends par exemple le mot « clou », c'est vrai qu'il y a le « clou » que je plante, planter un clou. Il y a le clou, un mot un peu familier sur lequel je pédale.
Ah, alors, le clou, le vélo.
Vous avez raison. Il y a le clou qui fait souffrir, le furoncle. Il y a le clou du spectacle que j'applaudis.
Mm-hmm.
Évidemment, quand je dis c'est le clou, je ne peux pas applaudir un clou que je plante.
Ouais.
Hein? Et donc, on se retrouve déjà là avec, aux yeux des distributionnalistes, non pas quatre sens d'un même mot, mais parce qu'il y a quatre usages différents, quatre distributions différentes, eh bien on se retrouve avec quatre homonymes. Et donc, évidemment, c'est une conception un peu particulière de la langue, mais qui a un avantage, c'est d'offrir une description extrêmement précise des usages, des distributions des mots. Et on fait un grand pas en avant, parce que d'une certaine façon, même si pour la consultation en fin de parcours, on a un peu abandonné parce que c'était pas très pratique, mais pour la recherche des définitions des mots, pour la clarté, bon, on avait là...
On sépare les acceptions.
Voilà, on sépare les acceptions et on laisse entendre que ce qui compte, c'est forcément l'acception, le sens. On n'était pas très loin de la conception de Wittgenstein qui disait que un mot n'avait pas de définition mais n'avait que des emplois. Hein, et d'une certaine manière, pédagogiquement, c'était très porteur pour les élèves. On pouvait faire beaucoup de choses.
C'est clair.
C'était très clair. Très clair. Et ça se dissociait complètement du petit Larousse. ou du Littré. Le Littré, par exemple, pour le mot nature, donne, je crois, 35 ou 40 sens. Et évidemment, c'est difficile de passer du premier au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième.
Sous la même rubrique. Alors que là, il y aurait eu plusieurs rubriques.
Alors que là, bien sûr, il y a la nature chimique, il y a la nature verdoyante qu'on admire, il y a la nature de son voisin qu'on ne supporte pas, y a, etc. Donc voilà les mots. Alors, en même temps, ils faisaient des regroupements. Par exemple, chargé, chargement, déchargé, surchargé, étaient regroupés dans le même article.
Par famille.
Par famille, avec des renvois. Donc c'était vraiment révolutionnaire. Et tous les grands dictionnaires s'en sont un peu inspirés ensuite. Donc ça, c'est le premier petit...
Alors, le Robert méthodique ou Brio ?
Alors, le Robert méthodique ou Brio très récemment, puisque c'en est la reprise par José Trédebœuf, qui avait été l'auteur en 1971 du micro-Robert, qui était destiné au collège, qui devait faire pièce au dictionnaire du français contemporain, avait une originalité avec ses 35 000 mots environ. C'était d'offrir non pas alors l'étymologie, ce qui peut se discuter de ne pas vouloir appeler ça l'étymologie, mais d'offrir les éléments morphologiques, les formes de la langue. C'est-à-dire que, par exemple, elle considère qu'il y a les éléments dubit, voc, mal, oum, qu'on va retrouver dans un certain nombre de mots dubitatifs, vocabulaire, etc. Rupture, où elle mettra rupt d'un côté, ur de l'autre, somnambule, somne et ambule, des, faire. Donc elle essaie, sans passer par le latin, sans passer par l'étymologie, de présenter les mots en fonction de... De ce qui est leur structure. C'était intelligent, c'était intéressant, il y avait de très beaux... une très belle petite monographie pédagogique en même temps. Ça n'a eu aucun succès. Aucun succès. Bon. Et pas plus en 71
qu'en
2004.
Avec brio. Et alors, les dictionnaires québécois ?
Alors, le dictionnaire québécois, là, je suis content d'évoquer un ami d'ailleurs, Jean-Claude Boulanger, qui est sans doute celui qui connaît le mieux les petits Larousse du Québec et énormément de choses sur les dictionnaires. Et c'était un dictionnaire qui, au Québec, avait pour objectif de présenter la langue non pas en fonction de la France, de l'Hexagone, mais en fonction de la langue parlée au Québec.
Oui.
Mais hélas, ça n'a pas eu le succès attendu, ça a même été un échec, parce que les Québécois étaient tellement habitués à avoir la norme, le petit Robert, qui les rassurait, et à ne pas voir les mots qu'ils utilisaient et qu'ils ne savaient pas trop s'il fallait les ranger dans le familier, dans le... ce qui fait que, comme à chaque fois, ils commençaient par donner le sens. Alors, j'ose à peine donner l'exemple qui me vient à l'esprit, mais tant pis, allons-y, nos auditeurs ne seront pas trop prudes. Mais il se trouve que l'exemple célèbre, c'est le mot « gosse ». Il se trouve que le mot « gosse », au Québec, ne veut pas du tout dire « enfant », il veut dire « testicule ».
Ah bon ?
Et donc, évidemment, quand un Français dit « j'ai trois gosses », ça fait sourire un Québécois, parce que, bien entendu, c'est impossible. Mais du coup, ce que fait Jean-Claude Boulanger, c'est mettre gosse et testicule, premier sens, sans se discuter, et puis en France, enfant. Donc vous voyez, il inverse les choses.
Mais testicule en argot ou
ah
au
non,
sens...
non, non, c'est,
en
mot familier, mais le mot gosse, si vous voulez, le côté
oui,
familier
est familier,
déjà
oui.
Un mot familier.
Oui.
C'est, bon, par quel hasard, je n'ai jamais trop cherché, mais c'est un exemple bon, connu. Vous savez, par exemple, le dîner. Quand un Québécois vous invite à dîner, il faut y aller à midi.
Bien sûr.
Si vous y allez le soir, c'est raté, parce que
ça,
dîner pour lui, c'est
oui,
le midi.
Oui, mais ça, c'est le vieux français.
C'est le vieux français, mais qu'ils ont gardé. Alors, ça c'est Jean-Claude Boulanger, puis il y a évidemment Claude Poirier avec le Dictionnaire historique du français, très bel ouvrage, qui se voulait une sorte de trésor de la langue française, mais au Québec, et fondé surtout sur l'histoire. Donc ça c'est les petits dictionnaires qui sont vraiment très révolutionnaires. Il y a les petits aussi, les tout petits, c'est-à-dire ceux pour les enfants.
Oui.
Qui là alors introduisent aussi une grande révolution, parce que quand on cherche qui écrit pour les enfants, alors tout à l'heure j'ai évoqué Miguel Taureau, qui était docteur, ce qui est quand même un critère aussi, il écrivait un dictionnaire pour enfants, il dirigeait le Petit Larousse français, le Petit Larousse espagnol. Et voilà que quelqu'un, bardé de diplômes, s'intéresse au dictionnaire pour enfants. Et pas en termes financiers, en termes didactique, en termes expérimentaux.
Affectif.
Mais j'ai presque envie de dire en termes expérimentaux. Et alors, quand on regarde les autres auteurs dans cette période, ce demi-siècle d'or, eh bien, on bénéficie de linguistes comme José Trédebœuf, qui va faire le Robert des enfants, très intéressant. De Giraudet, qui va faire le Tour du mot, qui a fait un grand dictionnaire chez Bordas. Et puis, nous aurons aussi des linguistes de Nanterre qui feront le Larousse des débutants, Lagagne notamment. Et du coup, il lance une expérimentation qui sera intéressante, mais sans lendemain, tant mieux d'ailleurs pour nos élèves, c'est d'introduire non plus un mot suivi d'une définition et d'un exemple, mais un mot suivi d'un exemple donné en premier, avec une glosse définitionnelle derrière. On peut, pour l'illustrer un petit peu...
La définition suit l'exemple.
La définition suit l'exemple. C'est-à-dire que on dira par exemple platane. Dans la cour de récréation, il y a des platanes et les feuilles commencent à tomber. Et puis, virgule, arbre qui pousse, etc. Alors, vous voyez que c'est un peu délicat parce que peuplier, je me souviens, le long de la rivière, il y avait beaucoup de peupliers, virgule, arbre qui pousse le long des rivières. Oui, mais il y a les saules aussi. Et en général, ces glosses définitionnelles n'étaient pas de grande qualité. C'était intéressant comme expérience. C'était aller dans la conception de Wittgenstein qui disait qu'il n'y avait pas de définition de mots, mais que des emplois. Bon, Josette Redebov y a mis un terme, elle a dit non, c'est pas clair pour les enfants, il faut redonner des définitions,
oui.
Et ensuite
c'est
des
exemples.
C'est
très bien comme ça.
Oh oui, vraiment.
Vous écoutez Canal Académie.
En 1994 paraissait, sur papier, le 16e et dernier volume du TLF. Et dès cette date était perceptible le renouvellement qu'apportait le souffle informatique. Une nouvelle ère commençait. Voulez-vous nous parler, Jean Pruvot, de cette métamorphose ?
Oui, c'est une révolution. On était passé du volumène, c'est-à-dire ce bâton d'ébène sur lequel s'enroulaient une quinzaine de mètres de papyrus et qui servait d'ouvrage. Ça nous a donné les volumes qu'on rangeait dans des casiers. On les voit encore à Herculanum. Mais en réalité, ce n'était pas facile pour les consulter. Et on voit bien qu'aller de A à Z sur un volumen, c'est impensable.
Aujourd'hui encore, quand on roule les journaux dans les cafés,
c'est
mal commode.
Pas facile du tout. Alors, la grande révolution, ça avait été de passer au codex, c'est-à-dire ce qu'on connaît encore aujourd'hui.
Des tablettes
articulées avec des lanières de cuir ou de cuivre, d'ailleurs.
Qu'on pouvait consulter.
Feuilleter, donc avec une pagination qu'on pouvait laisser ouvert.
Qu'on pouvait graver de part et d'autre.
Voilà. Et puis, qui pouvait bénéficier d'un sommaire et donc d'une structuration en disant c'est page 12 ou c'est à tel endroit.
D'être consulté l'ensemble.
Voilà. Alors, ça, c'est une grande révolution qui existe encore. Nos livres sont des codex. Entre-temps est arrivée l'imprimerie, qui évidemment a fait du manuscrit réservé à quelques-uns l'ouvrage offert à tous. Et on a bien vu combien le XXe siècle était la grande ère démocratique.
La couleur,
bien entendu, et en même temps les illustrations, milieu du 19e, et puis inondant maintenant nos dictionnaires encyclopédiques à bon escient. Et puis, finalement, dans les années 1980, réservées aux chercheurs, et puis dans les années 90, entrant dans tous les foyers, et petit à petit inondant même les maisons, on peut presque dire ça, eh bien, l'écran. Et là, on se retrouve devant un nouveau support, nouvelle manière de percevoir le dictionnaire. On ne le consulte plus.
On le regarde.
En le feuilletant, on le regarde avec ses mains et on tapote sur un clavier et on est tout prêt, effectivement, à ce moment-là, de l'information. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients. On y reviendra tout à l'heure, je crois. Mais le fait est que c'est une grande aventure qui commence avec le grand Robert électronique. 1989. Sur support électronique. C'est Laurent Cattache qui est agrégé de grammaire, de mathématiques, pardon, mais qui a travaillé sur les formalismes logiques et la grammaire, l'orthographe phonétique, qui en est le concepteur. Il fera aussi un dictionnaire pour enfants, le Robert Junior, qui sera le premier à donner des images pour les enfants qui bougent comme les écluses et en même temps les bruits des animaux. Donc on est dans le multimédia.
Premier dictionnaire multimédia.
Et puis, Larousse attend un peu, donc est plus tardif. C'est en 97 que paraît le petit Larousse sur CD-ROM. On avait très peur à l'époque. Je me souviens avoir rencontré Laurent Cattache, qui me disait que chez Robert, ils étaient inquiets. Est-ce que en mettant le petit Robert sur CD-ROM, ils allaient continuer d'en vendre sur papier? Est-ce qu'on n'allait pas les piller? Est-ce que l'information que ça représentait n'allait pas être recopiée très rapidement? Et donc, c'était de grandes inquiétudes. Et puis, alors, il y avait quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure, en discutant, c'est le fait que, autant quand je prends un dictionnaire de 2000 pages, je le vois, je le pèse même, j'en vois le volume, je peux le feuilleter, mais ma galette de plastique, elle peut avoir 200 000 pages, 20 000 pages, 20 pages, je le vois pas, je ne le vois pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai qu'une galette, c'est en l'ouvrant, et même en l'ouvrant, je ne perçois pas, je perçois image après image, mais j'en vois pas le volume, je peux pas dire, il est énorme. Alors, comme il y avait Microsoft qui achetait à tour de bras des anciennes éditions qu'il mettait sur CD-ROM aussi à tour de bras, la maison Robert se disait, est-ce que le public va comprendre qu'il y a d'un côté un travail de qualité et de l'autre côté un travail de compilation. Donc voilà un petit peu l'aventure. Et puis, le trésor de la langue française, qui devient informatisé, il est offert sur Internet en 2000. C'est l'œuvre de Bernard Cerchiglini, derrière Robert Martin. Et on sait qu'en 80, en 2000 et quelques, il vient d'être offert sur CD-ROM, Macintosh et PC, et que par conséquent, les 450 000 citations sont soit lisibles sur le papier, qui se vend toujours, c'est 16 volumes, soit consultables sur Internet, gratuitement, soit dans le train, sur son CD-ROM, pas très cher d'ailleurs, et qui donc montre à quel point on a finalement trois dictionnaires qui sont contemporains dans leur formule et qui fonctionnent.
Octobre
2004, c'est ça. Alors, il y a le dictionnaire de l'Académie sur Internet, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on sait que l'Académie ne revendique pas la rupture, donc les mots restent sagement définis, prudemment et sensément, mais en même temps, l'Académie offre sur Internet ses articles, des millions de personnes consultent chaque mois directement les mots auxquels définit. En soi, c'est une révolution. Et le fait même que le site soit en direct avec le trésor de la langue française, c'est aussi très intéressant parce qu'on voit que les deux dictionnaires institutionnels
se complètent
et s'offrent gratuitement. Ça, c'est quand même quelque chose de magnifique. J'entends, je ne crois pas qu'il y ait, je suis même sûr qu'il n'y a pas d'autres pays qui donnent un tel exemple.
Oui, c'est tout à fait passionnant.
Alors évidemment, l'informatique, c'est une aventure qui commence aussi.
Oui, bien sûr. Le support électronique a d'abord signifié la résurrection des dictionnaires patrimoniaux. Mais le support électronique a signifié aussi la naissance de produits novateurs. C'est ce que nous venons de voir. Au papyrus avait succédé la tablette, à la tablette le livre illustré, en couleur. Les dictionnaires étaient toujours à la pointe du progrès. Et vous rappelez, Jean Pruvot, dans votre essai « Dictionnaires et nouvelles technologies » déjà mentionné, que le dictionnaire contemporain que l'on achète est presque toujours synonyme de modernité. Certes, le public paraît avoir tranché. Il fait coexister dictionnaire sur papier et dictionnaire électronique, nous venons de le voir. Mais demain, quel est l'avenir du dictionnaire électronique? Il semble que ce soit un phénomène pluriel.
Mmh. Oui, c'est vraiment le mot. C'est un phénomène pluriel parce que, à mon avis, il y a 6 facettes au dictionnaire électronique. La première, c'est, dans le fond, l'approche physiologique. Autrefois, le volumen, on avait les deux mains mobilisées. Et on tenait par en haut la baguette et par en bas le rouleau. Aujourd'hui, de manière très très proche, les doigts sont rapprochés. On est à une concentration maximum entre les doigts, l'écran. Si on prend le triangle, les doigts, le regard et l'information, tout ça est dans un espace extrêmement réduit. Et c'est physiologiquement intéressant. C'est une sorte de presque de cérébralisation, si on me permet le mot, de l'acte de consultation du dictionnaire. Demain, certains pensent que ce sera sur des lunettes. Hein, on aura le texte de l'article qui s'affichera sur les lunettes. Et on n'aura plus qu'à dire, par exemple, micro, information historique, plus illustration. Et puis, ben, comme on chausse ses lunettes, et comme ça se fait déjà pour certains jeux, vous verrez sur vos lunettes l'article. Puis vous direz imprimé, et ça s'imprimera peut-être sur l'ordinateur, et même sans fil, à quelques mètres de vous.
Eh bien.
Bon, alors, en tout cas, phénomène physiologique.
Bon, oui.
Ensuite, phénomène
synesthésique.
Voilà, synesthésique. C'est-à-dire que la synesthésie, c'est tous les sens assemblés. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on imagine mal de consulter un article évoquant la cigale sans
entendre
striduler
la cigale.
Et en même temps, sans la voir, si possible, d'ailleurs, d'essayer de comprendre comment, par quel mécanisme physiologique, elle stridule. Évidemment, une écluse, il nous semble presque normal de voir un bateau s'enfiler dans les écluses.
Et au bois.
Et le hautbois. Alors, si on tape quatuor, symphonie, et on a envie de l'entendre. Bon, là de soi. Phénomène ensuite, autre facette, planétaire. C'est vrai que Jean-Claude Boulanger, par exemple, me demande de temps en temps un renseignement. Je lui demande de temps en temps un renseignement. On est à 7000 km de distance, lui à Québec et moi en région parisienne. Et on a des informations comme ça en temps réel. Et donc, il y a là quelque chose qui transforme finalement chaque appartement en centre du monde d'informations. On peut consulter des dictionnaires étrangers aussi. Donc, tout ça est quand même assez étonnant. Phénomène
dont on n'a pas encore fait le tour.
Non,
à vrai dire.
Pas vraiment. On en voit aussi les complexités, les complications. Mais enfin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On a dépassé Gutenberg et on est dans le village global.
Textuel.
Alors phénomène textuel, parce que aujourd'hui, ça m'est arrivé d'avoir des informations, d'être invité. J'étais une fois invité à l'Élysée. Je ne sais pas trop ce que j'allais dire. Et quelqu'un me dit, regarde sur Internet. Alors je consulte Internet et je vois les derniers discours et avec un moteur de recherche. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'université. Donc, on tape université et apparaît, comme dans un dictionnaire, tout ce qui a été dit par les uns et les autres, politiquement, au gouvernement, sur l'université. Donc, c'est un dictionnaire.
La trame de votre discours.
Voilà, donc on est là.
Proposé.
Voilà. Alors.
Phénomène conceptuel.
Phénomène conceptuel, dans la mesure où l'analogie. Et cette fois-ci,
oui.
Vraiment... On rattrape l'analogie. C'est vrai que Boissière, en 1862, avait fait un dictionnaire analogique qu'il voulait révolutionnaire, c'est-à-dire classer les mots par analogie, par thème. Mmh. Paul Robert a bien essayé, mais c'est pas ça qu'il a emporté dans son dictionnaire, qui reste alphabétique. Mais aujourd'hui, il est évident que les recherches un petit peu désastreuses que font les enfants, les adolescents, les adultes aussi, sur les moteurs de recherche, sans passer par des choses validées, mais c'est quand même analogique. On va de l'un à l'autre et on essaie de récupérer le maximum d'informations. Et évidemment, l'informatique le permet. C'est par essence des balises informatiques qui sont disposées dans les textes et qui permettent en quelques secondes de récupérer des informations sur un même thème.
Phénomène heuristique, enfin ?
Oui, parce que naguère, je travaillais dans mon laboratoire en chercheur isolé avec mon équipe. De temps en temps, on informait les gens que cela intéressait, rarement la planète entière. Aujourd'hui, chaque fois qu'on trouve quelque chose, qu'on fait des travaux, ils sont donnés sur site internet, consultés. Et du coup, ce qui se faisait dans l'alcôve des laboratoires du CNRS est aujourd'hui dans l'agora.
Bien sûr.
Et évidemment, ça a des effets, tout ça a des conséquences.
La littérature est proche et il suffit de chercher.
C'est ça.
Et on trouve la science, la recherche. C'est
tout à fait cela.
À la main. Hein. La consultation à domicile d'une information offerte à l'échelle planétaire n'a-t-elle pas des effets particuliers? Le lexicographe ne risque-t-il pas d'être dépassé, détrôné, l'information de disparaître?
Oui, alors c'est tout à fait ce qui peut se produire parce que en consultant...
Quels sont les risques, autrement
dit? En consultant Internet à travers les différents moteurs de recherche qui sont proposés, les adolescents notamment, mais les adultes aussi non informés...
C'est le premier réflexe de l'adolescent.
Oui. Mais alors même en tant qu'adulte, je ne connais pas bien, je ne sais pas l'aviation, je m'intéresse à l'aviation, je consulte sur Internet, mais qui peut me dire si ce site est fiable? N'importe qui peut faire un dictionnaire d'aviation. Et dans ce cas-là, eh bien, je suis dans une sorte de dictionnaire protéiforme. Ça, c'est la première difficulté parce que des informations sont données par milliers. Et puis ensuite, deuxième effet négatif, quelle est la validation? Quelle est la valeur que je peux apporter aux articles? Personne. Alors, bien entendu, s'il y a marqué CNRS, je me dis c'est plus sérieux. S'il y a marqué Académie, c'est sérieux. Mais après tout, quelqu'un peut aussi être un autodidacte et faire des choses
bien
très
sûr.
Bonnes, mais j'ai
alors,
du mal à le saisir.
Vous disiez que l'information était labile.
Oui.
Je repense à Montaigne et aux différentes étapes du travail de Montaigne qui étaient publiées avec des couleurs différentes dans les essais. Proust ou Balzac, dont les travaux étaient extrêmement longs et qui corrigeaient de multiples fois leur travail. Tout cela va disparaître.
Tout cela risque d'être perdu un petit peu parce qu'on sait bien que les traces informatiques disparaissent.
Alors, de nouveaux paramètres sont induits. Le texte ne suffit plus. L'espace n'a plus de limite. On parle d'hypertexte.
Oui, voilà.
Alors, l'hypertexte, vous allez nous dire ce que c'est. L'information la plus récente est accessible dans l'instant. Mm-hmm. Tout est instantané. Mais c'est ce que vous disiez plus tôt. Est-elle sûre, cette information? L'éditeur, il n'y a plus d'instance pour vous assurer de l'exactitude de ce que vous trouvez.
Eh bien non, et puis alors il y a d'un seul coup un autre paramètre qui intervient, c'est le fait que ce qui naguère se comptait en pages, en espace, maintenant se compte en temps. En fait, il faudrait dire combien de temps ai-je pour consulter le dictionnaire. Et ça, c'est peut-être ce qui change le plus. Et puis par ailleurs, alors le dictionnaire, on savait qu'il était de... même celui de 2007... On sait qu'il est achevé 6 mois avant. Aujourd'hui, par Internet, on voudrait avoir l'information tout de suite. Alors, a-t-elle le temps aussi de sédimenter, d'être rendue plus objective? On est vraiment dans une sorte de course dans le temps, avec peut-être même des problèmes de mémorisation, parce que tous ces supports électroniques, on le sait, beaucoup de photos qui sont sur support électronique et qui ne seront pas mises sur papier disparaîtront et seront oubliées. Les albums de nos grands-mères avaient leur charme, comme les dictionnaires de nos grands-parents. Et
oui.
Je crois que c'est peut-être ça le...
L'information devient fugace.
Voilà.
De nouveaux dictionnaires sont-ils imaginables, Jean Prévost? Comment seront-ils?
On peut se prendre à rêver. Je parlais de lunettes tout à l'heure.
Mais ça, je ne vois pas très bien comment ça va se...
Mais on peut rêver en pensant que...
Tous nos sens seront flattés.
Voilà. Pour le moment, nous voyons des lettres, nous voyons des images qui bougent, nous entendons des musiques, des sons. On commence à penser qu'on pourrait, on y pense pour les jeux électroniques et on y pense pour les dictionnaires, qu'on pourrait ressentir, sentir. C'est possible de refaire par essence de synthèse.
Oui, reste le goût.
Alors voilà, ça, c'est
peut-être
d'ailleurs...
C'est ce que je vous disais tout à l'heure en plaisantant, le jour où on nous apportera des croissants... lorsqu'on consultera le mot croissant ou du caviar, lorsqu'on consultera le mot caviar.
C'est vrai que je préfère vous demander, Anne-Françoise, un café que de dire à mes lunettes, avec un article sur le café, café, qui va me l'apporter ce café? Qui va me le faire? Il ne sera pas bon s'il est sur papier.
Non, là, on atteint les limites, semble-t-il.
Je crois. On n'a pas atteint les limites quantitatives, mais
oui.
On a fait à peu près le tour des possibilités. Mais bon, chaque...
Mais l'imagination nous manque peut-être.
Voilà, on n'a jamais trop prévu ce qui devait arriver.
Non, c'est vrai. Si je vous cite, Jean, force est de constater que l'alliance entre les lexicologues, lexicographes et les nouvelles technologies ne manque pas de vertus euphorisantes, nous venons de le voir, que les finalités soient temporelles ou métaphysiques. Il en va, dites-vous encore, de l'alliance des dictionnaires et des nouvelles technologies comme du phénix. Elle est placée sous le signe de la continuelle renaissance. Vous parlez même de noces éternelles. Alors, tous les espoirs sont permis. Et c'est bien dans cette perspective que nous allons nous retrouver dès janvier 2007 pour inaugurer une chronique mensuelle que nous avons décidé d'appeler « Le dictionnaire, hier et toujours ». À très bientôt donc, Jean Pruvot, et grand merci.
Merci Anne-Françoise.